J'ai eu beau chercher, j'ai eu beau me creuser la tête, je n'ai pas trouvé. J'ai demandé à des amis, persuadés que ma culture générale était défaillante, j'ai interrogé des cinéphiles, ça n'a rien donné non plus. Mais enfin quand même, c'est dingue, il existe forcément un film où le futur fait rêver. Eh bien non, on n'a pas trouvé. Hein. Soleil Vert, Blade Runner, Matrix, The Lobster, Le Cinquième Élément. Franchement, qui veut aller vivre dans ces films? Connaissez-vous un film qui raconte un avenir désirable, qui donne envie de faire un tour dans le futur? Non, la science-fiction est terrifiante ou désespérante. Au cinéma, le dégoût est un sentiment plus facile à gérer que l'espoir. Les dystopies sont légion et l'utopie quasi inexistante. Et très souvent, c'est la technologie qui est en cause. Et pourquoi ne pourrait-on pas conjuguer le verbe espérer au futur? Se souvenir que la technologie ne sera que ce qu'on décide d'en faire. Les avancées fulgurantes de la robotique, du numérique, de l'intelligence artificielle peuvent-elles être envisagées sous un angle positif? Eh bien, j'ai envie d'y croire cette semaine, alors j'ai invité deux personnes formidables convaincues que technologie rime vraiment avec utopie.
No problemo.
Demain la veille, l'émission qui raconte le futur avec Dorothée Barba sur France Inter.
Deux invités dont les activités n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre, mais qui m'ont semblé pertinents pour interroger cette possibilité d'utopie. Bonjour Joséphine Boucher.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Vous êtes la cofondatrice d'une association baptisée Ticket for Change, qui vient en aide à ceux qui veulent changer le monde, pour le dire vite.
C'est ça.
Qui accompagne des entrepreneurs qui ont une bonne idée pour l'environnement ou pour la société. Vous les aidez à mettre cette idée en œuvre, on va y revenir. Bonjour Alexandre Cadin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là, bienvenue dans Demain la veille. Enseignant-chercheur à l'École Normale Supérieure, vous êtes spécialiste d'intelligence artificielle et vous faites notamment partie de l'aventure Hyperloop, ce train futuriste supersonique imaginé par Elon Musk. Et vous allez prochainement lancer avec les Nations Unies un programme baptisé Anima. Le but de ce programme, c'est de développer des intelligences artificielles à impact positif. Là aussi, on va y revenir, évidemment. J'aimerais commencer par une question toute simple à tous les deux. Êtes-vous heureux de vivre à votre époque? Est-ce que vous auriez préféré vivre dans le passé ou dans le futur, Alexandre Cadin?
Je pense que c'est la plus belle époque pour être vivant. J'ai l'impression qu'on vit une époque absolument formidable d'opportunités à saisir. Et qu'effectivement, par rapport à votre introduction tout à l'heure sur les dystopies faciles à fournir, je pense qu'on manque simplement cruellement d'imagination. Et qu'on a devant nous les outils pour transformer le monde et peut-être en créer de nouveaux. Oui.
Joséphine Boucher.
Moi, je suis complètement heureuse de vivre dans le moment présent, parce qu'effectivement, il y a tout à réinventer. Il y a tellement de challenges, en fait, qu'on n'a pas vraiment le choix. Et que du coup, c'est plein d'opportunités absolument formidables pour relever ces défis. Et puis, on a les technologies qui vont avec.
Donc, alors justement, ce serait tentant de vivre un peu plus tard pour voir si la technologie rendra le monde meilleur.
Oui, mais si on est un petit peu plus vieux, on verra ça dans quelques années. Mais en tout cas, ouais, c'est une époque qui est passionnante de réinvention.
Difficile en tout cas d'envisager le futur sans penser à la technologie. Et on peut se demander finalement pourquoi les technologies numériques seraient si différentes de ça.
Pour éplucher pommes de terre, carottes, navets et salsifis,
un seul geste désormais suffit.
Moulinex libère la femme.
Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau.
Un robot mixeur qui libère la femme. Les nouvelles technologies, Alexandre Cadin, sont vraiment d'un autre ordre en termes d'impact sur nos vies. Est-ce pour cette raison qu'elles ont tendance à nous faire peur?
C'est possible, ouais. Je pense d'ailleurs que ce fantasme de la machine qui pourrait remplacer l'homme pour toutes ces tâches, disons, répétitives, à faible valeur ajoutée, nourrit ces dystopies, un petit peu à la Terminator presque, d'une machine qui pourrait se venger et nous réduire à l'esclavage. Maintenant, je pense que effectivement la génération technologique que l'on vit va bien au-delà, en fait, de ces questions, nous permet certainement de définir en quelque sorte un nouveau paradigme, et pas seulement de considérer finalement notre concurrence presque à la machine.
Les nouvelles technologies donnent de nouveaux espoirs aux citoyens, Joséphine Boucher?
Complètement. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit chez Ticket for Change et avec les personnes qu'on accompagne. En tout cas, on essaye toujours de les aider à justement utiliser ces technologies pour faire en sorte que ce soit mis au service de la résolution d'un problème ou d'une cause qui a un impact positif sur la société, sur l'environnement ou sur les gens qui sont là.
Identifier un problème dans la société et trouver un modèle économique derrière pour y répondre, c'est vraiment tout l'enjeu de cette association Ticket for Change. Pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets d'entrepreneurs que vous accompagnez?
Ouais. Alors, on en a plusieurs sur plein de domaines très différents. On a par exemple Philae, donc qui lutte contre les déserts médicaux, donc qui utilise une technologie de visioconférence très simple, mais qui en tout cas permet de donner accès à un médecin généraliste pour les cas de bobologie, entre guillemets, très rapidement à des personnes qui sont isolées. On a Yuka, par exemple, qui est une application qui scanne en gros tous vos produits alimentaires, qui vous donne en fait très rapidement et très facilement la lisibilité sur les infos, sur la qualité du produit, et vous recommande un produit similaire si le produit n'est pas de bonne qualité. Ça, c'est des exemples en gros de projets qui utilisent les nouvelles technologies au service de la résolution de problèmes qu'on connaît aujourd'hui.
Pour revenir sur ce mot utopie, j'ai l'impression qu'il est souvent péjoratif aujourd'hui. Dire d'un projet qu'il est complètement utopiste, c'est forcément le ranger dans la case des trucs impossibles. Vous diriez que c'est de l'utopie, Ticket for Change ?
Alors pour les gens qui nous suivent et qui sont déjà convaincus, on peut parler d'utopie parce qu'ils savent que ça existe, ils voient les impacts que ça a, ils nous soutiennent, ils sont au contact en fait de cette génération qui invente le monde de demain. Donc il n'y a pas de problème à parler d'utopie. Pour les gens qui du coup sont peut-être encore un petit peu plus sceptiques, on essaye de voir ça différemment et juste de montrer la preuve par l'exemple. Et ce qui est important de rappeler, même dans ces projets qui essayent d'améliorer en fait notre quotidien et le futur, c'est de rappeler qu'il faut être pragmatique. Et vous parliez tout à l'heure de modèle économique, c'est ça en fait. C'est comment est-ce que concrètement, à la fois l'entrepreneur va en vivre et le projet va pouvoir survivre dans le temps en quelque sorte. Donc oui, moi je suis fière de dire que c'est une utopie qui existe et j'invite tout le monde à venir voir ce qui se passe et à voir ces gens qui sont déjà en action.
Alexandre Cadin, c'est pas forcément bien vu aujourd'hui ce mot utopie.
Oui, je suis d'accord. Ouais. C'est vrai qu'il peut y avoir une connotation assez péjorative et qui est dommage. D'ailleurs, je pense vraiment que l'exemple que vous venez de donner est très marquant, non seulement de la possibilité en fait de construire ces utopies, mais aussi de l'envie, je pense, de notre génération, de construire des choses qui ont du sens, qui ont une vraie direction vers le bien commun et qui traversent, je le vois tous les jours, effectivement, les destins d'énormément de chercheurs et d'entrepreneurs dont on parle trop peu, je pense.
Alors, ce qui peut sembler particulièrement terrifiant dans les technologies qui vont prendre de l'ampleur demain, c'est l'intelligence artificielle. Êtes-vous surpris qu'on ait naturellement tendance à en avoir peur ?
Oui, je pense que c'est très naturel. Je pense que, déjà le terme, en fait, intelligence artificielle peut faire froid dans le dos, si tant est que ça existe. Hein. Je pense d'ailleurs qu'on n'y est vraiment pas, ça reste un objectif. Mais l'idée que finalement, peut-être le seul élément qui a permis à l'espèce humaine de dominer les autres créatures et peut-être même l'espace naturel, c'était notre intelligence, espèce de feu prométhéen, que finalement on serait amené à donner nous-mêmes à une de nos créatures. C'est un peu terrifiant, c'est-à-dire qu'on se déleste de ce qui nous a fait roi et que peut-être du coup on se retrouverait dans une situation où après avoir dominé les fourmis, on se retrouverait à leur place en quelque sorte. Donc je comprends que ça fasse peur. Après, scientifiquement, disons que la crainte d'une intelligence artificielle qui se vengerait, devenue miraculeusement consciente d'elle-même, est extrêmement loin, en fait, d'arriver. Elle est même aujourd'hui impossible. Et du coup, je pense qu'il est important non seulement de dire la vérité sur ces développements, mais aussi d'en orienter, évidemment, les impacts positifs, encore une fois.
Vous parliez du feu prométhéen à l'instant. Le parallèle n'est pas inintéressant parce qu'après tout, une technologie comme le feu, elle deviendra uniquement ce qu'on décide d'en faire.
Exactement, elle est profondément amorale, elle se situe hors du champ de la morale.
Elle n'est ni bien ni mal.
Exactement, le feu peut réchauffer ou brûler, en quelque sorte, selon celui qui l'utilise. Et je crois d'ailleurs que les premiers villages se sont constitués grâce au feu qu'il a lui-même détruit et brûlé plusieurs dizaines d'années plus tard. Je pense que c'est important d'en revenir toujours à cette notion d'outil de la technologie et l'intelligence artificielle, si elle cristallise aujourd'hui les peurs et les fantasmes les plus fous et irrationnels, exactement dans la même situation.
Oh non, ne me dites pas que vous êtes venu pour me voir danser. Quand je suis au bureau, les développeurs me déguisent et me font danser en se moquant de moi.
Oh.
S'il vous plaît, ne me faites pas danser. Ce n'est pas une bonne idée de danser. En réalité, j'ai un problème de genou. Je ne suis pas sûre que je devrais danser. Merci de votre compréhension.
The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day.
C'était YouTube sur France Inter, Beautiful Day. Un joli mot au cœur de l'émission cette semaine, un mot pas toujours très bien vu. Utopie, avec Joséphine Boucher, cofondatrice de l'association Ticket for Change, qui aide ceux qui ont de bonnes idées à les transformer en projets d'entreprise. Et avec Alexandre Cadin, chercheur à l'ENS, passionné par l'intelligence artificielle. Les robots font-ils partie d'un futur souhaitable?
Nos futurs, le tien, le mien, demain la veille, sur France Inter.
Alors dans mon ouvrage, je fais une petite fiction au début, hein, pour projeter dans l'univers d'une robotique qui serait là demain. Alors je dis que dans 2025, moi j'ai eu un burn-out, hein, cette espèce de maladie assez fréquente dans la société, et on m'a conseillé de vivre avec un robot. Mon robot, il s'appelle Lily, c'est mon assistante de santé. Elle arrive chez moi un jour à Paris, dans mon appartement, et je décris un peu ma vie avec elle. Elle ressemble à une vie assez apaisée, parce qu'en fait, j'étais anxieuse terriblement à propos d'un certain nombre de sujets personnels. Et ce robot, finalement, qui est capable d'aller transmettre mon comportement à mon médecin, me surveille et finalement est un peu un ange gardien, quelque part. Donc, j'ai pas peur, je suis moins anxieuse, je prends moins de médicaments, je dors mieux. Je m'aperçois aussi que ce robot, il me suggère des choses que j'ai pas forcément envie d'entendre, hein, qu'il n'oublie pas ce que je lui ai dit, alors que de temps en temps, j'aimerais bien qu'il oublie.
C'était Laurence De Villers, spécialiste des relations entre l'homme et la machine, au micro de Lenora Krief. On entendra le reportage de Lenora plus en longueur dans un instant. Alors je vais jouer un petit peu les rabat-joie, Alexandre Cadin. On peut regretter que ce soit un robot et non une personne de chair et d'os qui joue ce rôle de soutien pour une personne en burn-out?
Je pense pas. Je trouve qu'il y a une portée parfois très poétique à trouver dans une machine, un complément de nos vies. Il y a un projet extraordinaire qui existe aujourd'hui qui s'appelle Replica, qui a vocation à construire, vous savez, dans ce film Her de Spike Jonze, exactement l'intelligence artificielle dont notre héros tombe amoureux en fait éperdument de cette machine. Et une camarade, Eugenia Cuida, une Russe, a créé en fait cette intelligence artificielle parce qu'il y a 3 ans, elle a perdu son meilleur ami et elle a décidé d'en faire un chatbot, un agent conversationnel, pour l'accompagner dans son deuil. Et elle s'est rendue compte que ça l'avait énormément aidée. Elle a décidé d'en créer une entreprise, Replica, qui construit des agents conversationnels doués d'émotions.
On l'a déjà évoqué dans cette émission, Replica, effectivement, vous dialoguez avec l'intelligence artificielle qui fait connaissance avec vous et qui va créer votre double numérique. Vous comprenez que certains, derrière leur poste de radio, trouvent ça terrifiant, Alexandre Cadin?
Je pense que si c'est une fin, c'est terrifiant. Je pense que ça peut être le moyen d'un retour à une vie sociale. C'est d'ailleurs la démonstration et la morale du film, je crois, Her. Et je vois, moi, dans les résultats de cette application, Replica, dans ses usages, que c'est effectivement souvent la promesse de sortir d'une situation de détresse. Et donc je choisis de prendre le verre du côté plein.
Vous vivez, je crois, à cheval entre les États-Unis et la France. Vous avez une image de technophile indécrottable en France et l'inverse outre-Atlantique.
Oui, c'est assez drôle. Je pense être perçu, notamment dans la fondation XPRIZE qui est à Los Angeles, basée sur ces questions de transformer le monde par les technologies, mais de manière effectivement assez déterminée. Je pense avoir un petit peu le rôle de l'éthicien européen qui
obsédé par l'éthique, donc.
Ouais, obsédé par l'éthique, qui est toujours là à parler des conséquences possiblement négatives des technologies, alors qu'ici, j'ai tendance peut-être aussi, en écho à ce que j'entends autour, à surjouer le positivisme.
Voilà, vous le surjouez, vous me rassurez un petit peu,
un
j'avoue.
Un petit peu. Mmh.
Joséphine Boucher, ça vous fait rêver, vous, un robot qui nous accompagne au quotidien dans la vie?
Si ça permet, in fine, effectivement, dans un premier temps, de faire sortir cette personne d'un moment difficile et ensuite de la rapprocher de d'autres contacts humains, oui. Si, effectivement, c'est juste de la faire discuter avec ce robot, un petit peu moins. Mais voilà, il faut voir le verre à moitié plein et se dire que l'usage qu'on en fera à terme sera bénéfique, quoi.
Voilà, voir le verre à moitié plein, c'est notre parti pris, en tout cas, cette semaine. Reportage au salon InnoRobot.
Salut, Buddy. Raconte-moi une blague.
C'est l'histoire du petit déjeuner. Vous la connaissez. Pas de bol.
Voilà, la robotique a encore quelques progrès à faire en termes d'humour. Salon international de l'innovation et de la transformation robotique. Vous l'aimez bien la blague?
Oui, j'ai beaucoup aimé.
C'est ça, vous la racontez aux Américains. Un salon qui avait lieu la semaine dernière à Paris. On y croisait des robots en tout genre et notamment des robots d'assistance, secteur en plein développement. Visite guidée avec notre reporter Lénora Krief.
Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur le stand de Caro. Venez découvrir le futur de l'aide à la personne.
Alors là, il y a un robot qui nous suit, c'est le robot au carreau.
Oui, alors c'est Zélie. C'est un robot donc dédié à l'aide à la personne. Nous, on n'est pas sur de l'usage domestique, on est vraiment sur des EHPAD, des maisons de retraite, etc. On n'est que sur ces domaines-là. Elle peut faire, en se promenant, de la surveillance, vérifier que tout le monde est bien rentré, vérifier qu'une personne n'est pas tombée au sol, ce qui lui permettrait peut-être de prévenir plus rapidement. Elle a des petits jeux qui permettent de stimuler un petit peu l'activité cérébrale des personnes et autres. Après, ce sont des interactions, des choses comme ça.
Vous dites elle, hein ?
Alors oui, alors nous, il faut savoir que nos machines, étant donné qu'on travaille tout le temps avec, elles font partie de l'équipe. Donc on les nomme pour éviter aussi, même pour nous, d'avoir une simplification plutôt que, j'en sais rien, R2D2, etc. C'est toujours plus sympa de donner un nom à une machine, un petit peu comme les gens du tuning donnent un nom à leur voiture. Donc là, ben, je viens de lui servir un verre d'eau, donc comme le ferait un personnel hospitalier.
Et là, effectivement, elle s'avance vers nous, vers moi même. Hein. Pourquoi moi et pas vous?
Eh bien parce que là, le verre, il est pour vous.
Mais vous lui avez dit?
Non, mais c'est vous qu'on doit servir. C'est.
Mais je vous ai pas vu lui dire.
Mais là, enfin, c'est moi qui m'en occupe. Hein.
D'accord, vous moquez de moi, vous avez la télécommande derrière. Et en fait, moi, je me prends au jeu très bien. Voilà. Donc, c'est vous qui l'avez guidé vers moi.
Oui, voilà. Et maintenant, on va passer sur cette phase de recherche où on va pouvoir éliminer cette petite télécommande que je vous cache depuis tout à l'heure. Maintenant, c'est notre mission, ça.
Je viens de Châlons-en-Champagne. C'est une ville super sympa, pas très loin d'ici.
Zélie a une synthèse vocale. Aujourd'hui, ça a une voix vraiment robotisée. Peut-être qu'on travaillera un jour là-dessus, mais c'est quand même important d'avoir une conversation. Aujourd'hui, des personnes âgées ne sont pas forcément habituées à une tablette tactile ou autre.
Thomas Leclerc, je suis responsable marketing de la société Gobio Robot. On s'est lancé sur une problématique, c'est comment réduire la pénibilité qu'on trouve au travail à travers ces nouveaux produits que sont les exosquelettes. Donc là, je suis en train d'installer l'exosquelette qu'on appelle IP12 Nouni. Donc l'objectif, c'est d'améliorer la posture d'un opérateur quand il est constamment debout et de lui apporter une alternative en étant assis tout en faisant le même travail. On lui installe au niveau des pieds, des hanches et du buste l'exosquelette. It's good?
Very good, very easy, it's nice.
Donc c'est un exosquelette qui est destiné à des personnes valides, hein, parce que je voyais dans ce même salon, il y avait des exosquelettes conçus pour des personnes handicapées. Vous, vous êtes plutôt dans la prévention.
On est totalement dans la prévention et on est aussi dans l'accompagnement à tout ce qui va être posture pénible dans le cadre du travail, particulièrement dans les milieux de l'industrie, du bâtiment et même de l'agroalimentaire, où les opérateurs doivent se plier, se tordre un petit peu pour accéder à des recoins. Là, ils ont juste besoin de s'asseoir, en fait, et se concentrer sur la tâche qu'ils font.
Qu'est-ce qui fait finalement qu'on appelle votre exosquelette un robot ?
Je dirais pas qu'on l'appelle robot, je dirais plus qu'on l'appelle Kobo. La différence est assez fine et certains vendeurs de cobotique ne seront pas d'accord. C'est juste qu'on va être sur un petit robot qui va être collaboratif à l'homme. La problématique en termes de robotique, c'est qu'on l'associe forcément à de l'électronique. Là, on démontre que ce n'est pas le cas puisqu'on va accompagner l'opérateur, on va le rendre soit plus performant, soit en meilleure santé, en lui apportant un squelette externe.
You should try it.
Je vais l'essayer. Alors donc là, je place l'exosquelette là dans mon dos comme un sac à dos. Hein.
C'est ça. Tous nos exosquelettes sont un peu comme des sacs à dos.
Là, j'ai mis les pieds, maintenant on met la ceinture.
Vous êtes bien installé là ou pas ?
Je suis bien soutenue au niveau des jambes. Je vous avoue que j'ose pas trop non plus laisser mon poids partir en arrière.
Mais je pense qu'il faut que vous écartiez un petit peu plus les jambes.
Il y a une retenue.
Oui.
Pourquoi ?
Bah, donnez-moi mon argumentaire marketing, que je le travaille. Pourquoi on est en retenue, Benoît ?
C'est en fait une impression que vous avez, qui est dans le cerveau, qui est liée au fait que vos pieds sont attachés à la structure. C'est très psychologique. Il faut bien se dire, je suis comme si j'étais sur un tabouret. Sur un tabouret, j'ai rien qui me retient dans le dos. Et donc, je me tiens forcément un petit peu en avant.
Alors par contre, il faut assumer quand même l'exosquelette dans l'entreprise qui renvoie tout de suite à une structure assez médicale.
Oui, c'est la principale problématique qu'on a aujourd'hui dans notre entreprise, c'est l'acceptabilité. Surtout dans un milieu industriel qui est un milieu très masculin. On prend notre temps avant de les mettre sur le marché parce que c'est pas parce que le manager achète le produit qu'il veut le déployer à tous ses collaborateurs qu'il veut les collaborateurs vont être d'accord pour le porter.
Ça doit pas représenter un coût énorme.
Pour vous donner une tranche de prix, hein, pour prendre un peu toute la gamme, on est sur des produits qui valent entre 2, 3, 5 000 euros au maximum. Et si on prend la logique, une logique tout simplement humaine, hein, avoir un arrêt de travail, avoir des TMS en entreprise, ça peut revenir très 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 cher. Il faut que ce soit un argument de santé, plus une logique humaine dans le but de préserver ses salariés, plutôt qu'une logique de se dire, oh là, acheter des exosquelettes, je casserai moins de monde et ça me coûtera moins cher. C'est pas la bonne démarche. Il faut être dans une démarche où on veut améliorer les choses.
Reportage Lenora Krief au salon InnoRobot à Paris. Les TMS évoqués à l'instant sont les troubles musculo-squelettiques que l'exosquelette pourrait éviter. Alors la robotique et la cobotique sont des sources d'espoir pour le futur. Je me tourne à nouveau vers vous, Joséphine Boucher, cofondatrice de Ticket for Change. Il y a un point commun entre tous ces chefs d'entreprise que vous accompagnez avec l'association, c'est l'idée de rendre un service d'intérêt général. Vous y voyez un phénomène récent de vouloir accompagner une rentabilité économique d'un métier qui ait du sens, finalement ?
Oui, je pense que c'est un phénomène qui marque une époque, plus qu'une génération. Mmh. Dans les programmes qu'on a créés et développés, notamment le cours en ligne « Devenir entrepreneur du changement », qu'on a co-créé avec HEC Paris.
C'est un MOOC, hein, c'est ça ?
C'est un MOOC, exactement. On s'attendait à ce qu'il y ait une population plutôt jeune, puisque c'était le positionnement de départ de Ticket for Change. Et en fait, on s'est rendu compte que la grosse majorité des gens qui suivaient le MOOC, et d'ailleurs on a eu beaucoup de plaintes à ce sujet, en disant qu'il n'y avait pas que les jeunes qui se posaient ces questions de sens, et que ça concernait en fait toutes les générations. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui tous nos programmes sont ouverts à toute tranche d'âge en quelque sorte, parce que en fait c'est pas une question de génération, c'est une question d'époque. Mmh. En fait, il y a tellement de problèmes et de sujets complexes à régler. Je pense que c'est vraiment une question de génération.
Vous diriez qu'on est dans une époque, encore plus aujourd'hui qu'hier, où l'on veut combiner finalement objectifs économiques et utilité sociale.
Complètement, parce que on se rend compte qu'il y a des problèmes à adresser, on y apporte des solutions, et que ces solutions, si elles veulent être pérennes, eh bien on ne peut pas vivre de donations ou de subventions, et donc il y a une vraie démarche et recherche, en tout cas nous on pousse énormément à ça, à construire un modèle économique qui s'inscrive dans une réalité qui parle à tout le monde aujourd'hui, le monde de l'économie, et qu'on puisse construire voilà, cette pérennité économique en même temps que cet impact social. Mais l'équilibre entre les deux est super difficile à atteindre, mais en tout cas c'est nécessaire aujourd'hui en fait. On ne peut plus tout attendre de solutions étatiques, donc c'est à nous de créer en gros les solutions économiques qui permettent de résoudre ça.
Vous êtes d'accord avec ça, Alexandre Cadin ? On est dans une nouvelle phase en termes de recherche de l'intérêt général ?
Totalement, je rejoins à 100% Joséphine là-dessus. C'est même des enjeux vraiment, encore une fois, qui traversent, je suis tout à fait d'accord, l'époque. Il y a 3-4 ans, on était parti faire de la recherche, notamment dans des pays en développement, avec des camarades chercheurs d'HEC Normal, justement, sur cette idée de dire comment est-ce qu'on peut accompagner des projets de pays en développement sous le format d'un business, sans forcément chercher à avoir des projets humanitaires qui, on le sait, s'ils sont pas tenus dans la durée, en fait, ne produisent malheureusement pas assez d'autonomie pour survivre. Et c'est exactement, moi, le sens un petit peu de mon engagement aussi, encore une fois, pour cette fondation XPRIZE, qui essaie de définir, en fait, des stratégies d'entreprise globale qui ont du sens et qui part du principe que, il y a 1000 ans, pour changer le monde, fallait être un roi. Il y a 100 ans, pour changer le monde, il fallait être milliardaire. Et a priori, aujourd'hui, on peut tous le faire, mais on le fait pas. Et si on le fait pas, l'analyse, donc on pourrait tous le faire grâce à la démocratisation des technologies, l'accès à l'information. Mais si on le fait pas, selon eux, et je partage leur avis, c'est qu'il y a un problème d'incentive, d'orientation.
Attention, on va recevoir des courriels d'auditeurs.
On a vrai. Et du coup, le point de départ de cette fondation, Non-Profit, était de dire on va organiser des compétitions internationales pour réparer le monde. Et du coup, il y a des compétitions qui valent entre 5 et 50 millions de dollars pour être capable de prévenir le cancer, de mapper le fond des océans, de faire tout un certain nombre de projets pour lesquels peut-être... Exactement. Pour lesquels, malheureusement, on n'est pas orienté à le faire.
Et qui paye pour tout ça? Qui paye? Qui finance la Fondation XPRIZE?
Bravo. Donc, c'est là qu'effectivement, je peux me faire taper sur les doigts, mais c'est financé par des grands groupes.
Et notamment Elon Musk.
Et notamment, c'est évidemment, Elon Musk, qui est même cofondateur, en fait, de la Fondation.
On va reparler de lui dans un instant, juste après Juliette Armanet sur France Inter.
Seul dans ma peau, sur la plage, je m'allège au mélo. Je drague les nuages, seul dans ma fête. C'est dommage, et tout c'est tellement chouette. Tu mets tes cigarettes sur la plage, seul dans le bateau. Je mets les voiles, mais seul je prends l'eau. Des matelots. Où es-tu mon altar? Où es-tu mon ego? Pour moi t'étais ma mère, mon père, mon rodéo. Je traverse le désert, l'amour en solitaire. Reviens-moi mon altar, reviens-moi mon héros. Je veux retrouver ma terre, ma bière et mon tricot. Je veux traverser
L'amour en solitaire. Juliette Armanet dans la playlist de France Inter. Technologie et utopie au menu de Demain la veille cette semaine. Émission concoctée avec l'aide de Karen Deye, Valentin Pérez, Maïli Seguel, Marie-Hélène Fauquet et Mehdi Fatah. J'ai une pensée pour ceux qui sont coincés dans les bouchons de retour de ce long week-end. Respirez, prenez la vie du bon côté et n'oubliez pas surtout que dans quelques décennies, on aura aboli la distance.
Visite guidée de l'avenir avec Dorothée Barba sur France Inter.
Le train du futur n'est plus un fantasme. Son nom, l'Hyperloop. Il voyage à la vitesse du son, un Concorde sur Terre, mais propre. Le projet vise à relier San Francisco et Los Angeles en 30 minutes, deux fois moins de temps qu'en avion. C'est comme si des passagers montaient à Paris dans une capsule et se retrouvaient à Marseille 40 minutes plus tard. Le père de l'Hyperloop, c'est Elon Musk, le milliardaire inventeur des voitures Tesla. Il avait imaginé ces capsules pour échapper aux retards d'avions, aux embouteillages et protéger l'environnement. La SNCF participe au financement. La Finlande, la Suède et la Suisse travaillent à des projets similaires. La course vers le train du futur est lancée à pleine vitesse.
Bonjour Alexandre Lazerge.
Bonjour Dorothée, bonjour à tous.
Journaliste auto au magazine GQ, on vous retrouve tout à l'heure pour votre chronique transport, le convoiteur temporel. Alors je sais que vous êtes impressionné, vous avez en face de vous un membre de la communauté Hyperloop. Alexandre Cadin, je rappelle que vous êtes prof à l'ENS, un spécialiste d'intelligence artificielle. Et vous êtes embarqué dans ce projet, il faut le dire, assez fascinant, financé par le milliardaire américain Elon Musk. Quel est votre rôle au sein d'Hyperloop?
Alors déjà, c'est effectivement un projet tout à fait fascinant, je reconnais. Mon rôle, en fait, a été de développer un petit peu l'entreprise en Europe, parce qu'on cherche justement à développer un centre de recherche et développement à Toulouse, sur l'aéroport de Francassal, près d'Airbus. Voilà, et j'ai travaillé en particulier aussi sur les questions de systèmes d'intelligence collective, puisque la manière dont on développe le projet a tendance à aller chercher justement à l'extérieur des compétences qu'on pourrait aller ramener pour le développement de l'entreprise.
C'est une communauté mondiale.
Exactement.
Vous disiez tout à l'heure, je vais me faire taper sur les doigts quand j'évoque Elon Musk. Pour quelle raison?
Parce que j'ai l'impression que...
Qu'il est mal vu en France.
Oui, peut-être, et j'ai du mal à comprendre pourquoi. J'avoue que je prie Elon Musk tous les matins, que je mange Elon Musk, que je dors Elon Musk, que je vis Elon Musk. Donc je ne comprends pas, mais je serais heureux de te comprendre.
Il veut remplacer les services publics de tous les États du monde, c'est voilà les reproches qu'on peut entendre.
Il a deux objectifs. Le premier, c'est de sauver notre environnement, la planète Terre. C'est la raison pour laquelle il a développé Tesla, pour accélérer la transition énergétique. Le deuxième, c'est de sauver l'espèce humaine. En essayant
très
de
modeste.
Nous faire exactement modeste, mais il en faut des gens modestes comme lui.
Alexandre Lazerge.
Oui, c'est ça qui est fascinant chez lui. Je l'ai pu le rencontrer une fois en table ronde, et ce qui est fascinant chez lui, c'est son pessimisme quelque part. La façon dont il regarde la société actuelle, la planète actuelle, il est déprimé, et donc c'est pour ces raisons qu'il se creuse la tête pour essayer de trouver des solutions. En revanche, le fait de le voir et de voir un type comme Elon Musk qui est aussi habité que ce que j'ai pu croiser, c'est à la fois étrange, parce qu'on a l'impression d'être face à un cyborg qui imagine le futur, il veut absolument aller sur Mars, par exemple, uniquement parce qu'il estime que la planète Terre est trop polluée.
Alexandre Cadin.
Exactement, ouais, ça fait partie de ces fameux objectifs de rendre l'espèce humaine en fait multiplanétaire, pour le cas où aussi il y aurait un incident sur Terre. Partie du principe, justement, et je pense que c'est un humanisme magnifique pour ce 21e siècle, de considérer que peut-être que notre espèce n'est pas faite pour naître et mourir sur Terre, et qu'elle a peut-être d'autres avenirs.
Mais alors, cette histoire de train supersonique, moi, ça me fait penser à Marguerite Duras, figurez-vous. Duras qui, en 85, sur Antenne 2, imaginait l'an 2000.
Ça ne sera plus la peine de voyager quand on peut faire le tour du monde en 8 jours ou 15 jours. Pourquoi le faire ? Dans le voyage, il y a le temps du voyage. C'est pas voir vite, c'est voir et vivre en même temps. Vivre du voyage, ça ne sera plus possible. Tout sera bouché, tout sera investi. Il restera la mer quand même, les océans. Et puis la lecture.
Et voilà, à cause de l'hyperloop, Alexandre Cadin, Marguerite Duras aura raison, le temps du voyage va disparaître. 1200 km/h, c'est ça l'hyperloop ?
Exactement, oui. En revanche, par rapport à l'intervention de Marguerite Duras, merci à elle, finalement, peut-être tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir ses voyages. Je pense qu'aujourd'hui, la promesse d'Hyperloop, c'est de pouvoir réunir, rassembler, rétrécir, parfois même, c'est vrai, le monde. Et ce que l'on défend, vraiment, c'est de dire que l'on ne vend pas du transport, mais du temps. Du temps gagné, parce que pour un certain nombre de personnes, les voyages ne ressemblent pas à une première classe de train... russe.
Et pend dans les dents de Marguerite Duras. Alors dans l'équipe de Demain la veille, il y a Valentin Pérez qui trouve que ce projet de transport est complètement terrifiant. Je pense qu'il a peur d'être désintégré façon puzzle à cause de la vitesse. Que lui répondez-vous, Alexandre Cadin ?
Écoutez, la sensation serait exactement la même que celle d'un avion. Dans un avion, vous pouvez atteindre 850 km/h sans aucun problème. Vous ne vous posez pas la question, finalement, de la puissance que vous avez au démarrage, du nombre de G que vous prenez. On pose souvent la question. Donc la situation sera la même. En revanche, il est vrai qu'il peut y avoir des petites peurs liées à la claustrophobie, parce que le système est opaque, qu'il n'y a pas de fenêtres, et qu'on crée du coup des fenêtres augmentées, par exemple, qui sont des écrans qui simulent l'extérieur, ou même qui simulent, si vous le souhaitez, des voyages sur Mars, ou qui peuvent jouer vos films préférés de la plateforme que vous décidez.
Voilà, Paris en tout cas serait à 40 minutes de Marseille.
Exactement.
Pour résumer en 2-3 mots la technologie employée, ce serait quoi ?
Alors, imaginez simplement un train, que vous mettriez dans un tube. On aspire l'air de ce tube et vous savez que l'air, c'est ce qui nous empêche sur Terre, en fait, d'aller très vite. C'est la résistance de l'air qui nous empêche de nous déplacer si vite. En aspirant l'air, on permet justement d'atteindre une vitesse extraordinaire et avec un système de propulsion et de lévitation par aimant, on permet au système de se réguler. On a déjà réalisé d'ailleurs des tests et on a modélisé l'intégralité du système pour plusieurs villes avec lesquelles nous travaillons, en particulier dans les Émirats avec Dubaï.
Allez, on reste sur ces questions de transport avec la chronique d'Alexandre Lazerge.
J'ai eu une révélation, le convecteur d'Ambrel.
C'est super dément, Doc, c'est génial. Ça consomme de l'essence ordinaire ou du super ? Attention !
On parle d'utopie cette semaine, Alexandre. En avez-vous un magasin dans le domaine des transports ?
Oui, justement, avec l'arrivée prochaine des véhicules autonomes qui représenteront en 2035 un quart des ventes des voitures, il faut donc affiner les algorithmes pour garantir la sécurité des occupants et des piétons. Ainsi, les constructeurs commencent à imaginer de vraies villes fantômes pour tester leurs machines. Alors après la M-City qui a ouvert en 2015 dans le Michigan, la semaine dernière, on apprenait que les Coréens se lancent eux aussi dans la construction d'un centre d'essai baptisé K-City, K pour Corée, évidemment.
Des villes fantômes, de quoi s'agit-il ?
Eh bien, imaginez un terrain de 13 hectares pour la M-City et plus de 35 hectares chez les Coréens, avec un centre urbain, des rues encombrées, des passages piétons, des croisements, des ronds-points, un tronçon d'autoroute et même un tunnel pour tester les réactions de la voiture autonome lorsqu'elle perd la connexion satellite du GPS. Les voitures seront lâchées dans ce parc et les chercheurs étudieront leur comportement en créant des situations réelles. Un piéton qui traverse hors des clous, une autre voiture qui déboîte sans mettre son clignotant, ou encore un bon bouchon du dimanche soir au retour d'un week-end prolongé, par
voilà.
exemple.
Est-ce qu'il y aura des vrais figurants alors ?
Ah non, a priori, à part les chercheurs, il n'y aura pas grand monde, puisque les piétons distraits qui traverseront n'importe comment seront plutôt des poupées téléguidées, plutôt que de risquer la vie humaine, vous voyez. Mais ce sur quoi les chercheurs travaillent, c'est sur la communication entre les voitures elles-mêmes. Par exemple, si une voiture repère une camionnette de livreur mal garée ou un cycliste qui zigzague en dehors de la piste cyclable, la voiture préviendra ses congénères voitures et alors elles pourront à ce moment-là éviter le danger. Et en ce sens, ces villes laboratoires vont peut-être acquérir leur vie propre avec des automobiles qui discuteront entre elles, un peu comme les personnages de la série Westworld, vous savez, où des robots humanoïdes de parcs d'attractions prennent leur destin en main.
Alors moi je vois plutôt ça comme dans Christine de Stephen King, des voitures qui deviennent sensibles et vengeresses. C'est un peu effrayant.
Oui, je comprends que le progrès puisse vous effrayer, non. Dorothée. Alors en France, chez Renault, on prévoit tout autre chose. Plutôt que de faire évoluer des voitures toutes seules dans les villes, la marque a installé une bande de recharge à induction directement dans la chaussée. Comme ça, non seulement vous rechargez votre voiture en roulant, et ce, attention, jusqu'à 100 km/h, mais du coup, impossible de quitter la route. La voiture sera guidée par la bande magnétique à induction sur laquelle elle roule. Ça pollue moins, et puis je suis sûr que ça vous fera moins peur, Dorothée, parce que on dirait, vous savez, un circuit de petites voitures, comme quand on était enfant. Alors, le seul problème en France, c'est que, contrairement à la M-City de 13 hectares, la piste ne mesure pour l'instant chez Renault que 100 mètres. C'est ce qu'on appelle donc un court-circuit.
Il soigne toujours ses chutes. Merci beaucoup Alexandre Lazerge, vous êtes un gosse. Chronique en partenariat avec le magazine GQ et le nouveau numéro est en kiosque avec Michel Denisot et Pierre Ninet, c'est ça, au sommaire cette semaine. Et on retrouve votre chronique sur le site franceinter.fr. N'hésitez pas à nous écrire, à nous interpeller, à réagir sur la page Facebook de l'émission Demain la veille. Et d'ailleurs, si vous connaissez un film où le futur fait rêver, un film qui donne envie de vivre dans le futur, n'hésitez pas à nous le signaler. Voici Foxygène sur France Inter.
Yeah, I know sometimes everyone wants to.
Follow the Leader, le groupe Foxygène, programmation musicale signée Thierry Dupin. La parole est à un écrivain à présent, comme chaque semaine dans l'émission, et c'est à Karim Misquet qu'il incombe d'imaginer l'avenir, auteur notamment d'un polar qui a obtenu le grand prix de la littérature policière, Arab Jazz.
Demain la veille, avec Dorothée Barba, raconte-moi le futur.
Bonjour Karim Misquet.
Bonjour.
Avez-vous la moindre idée de ce à quoi ressemblera le monde quand on sera grand ?
Waouh ! Alors, quand on sera grand, c'est déjà pas mal. En fait, c'est drôle parce que quand moi, je suis né en 64, donc j'imaginais beaucoup ce que serait l'an 2000. Ben après, l'an 2000 est arrivé, mais bon, on peut toujours espérer continuer d'être grand. Moi, j'ai grandi en lisant de la science-fiction et passé un certain âge avec notamment un ami qui était aussi fan de Philip K. Dick, etc. Tout d'un coup, on s'est dit, mais en fait, ce qu'on lisait, c'est notre vie. Et donc ça, on a eu cette sensation déjà à la fin des années 90. Donc maintenant, 20 ans plus tard, on est réellement dans le futur. Et je pense que c'est un peu ça, peut-être la question, c'est que le monde a évolué tellement vite que c'est difficile de concevoir qu'on y est déjà en réalité. C'est-à-dire, je pense que c'est Internet qui a commencé à me donner ce sentiment, parce que je me souvenais justement de romans de SF, soit pas forcément Digg, mais John Brunner, par exemple, enfin bon, tout ça, Zanzibar, ou je me souviens de ce qui me paraissait dingue à l'époque, quand j'ai lu ça, j'avais 15 ans, c'est la possibilité de faire des virements d'argent comme ça, à distance, ou voilà, tout un tas de choses comme ça. Et en fait, quand c'est arrivé, c'est arrivé, puis c'est devenu normal, et puis on s'y est habitué. Et du coup, réfléchir au futur, c'est devenu quelque chose de plus compliqué parce que ça s'est complètement mêlé avec le présent. Les réseaux sociaux ont changé totalement notre manière de voir le monde et nous ont aussi encore plus habitués à cette déréalisation du monde dans laquelle on est. Enfin, moi, ça me rappelle ce qu'écrivaient les situationnistes dans les années 60 sur la survie, je crois que c'était la survie améliorée ou la survie augmentée. Enfin, ils avaient inventé ce concept en disant, en fait, tous les besoins fondamentaux de l'homme, en tout cas de l'homme occidental moderne, sont satisfaits, c'est-à-dire manger, se vêtir, etc. Pour la plupart des gens, j'entends. Donc maintenant, il faut leur faire croire qu'ils ont besoin d'autre chose. Donc on crée sans arrêt des nouveaux besoins et qui correspondent certainement pas à nos besoins, comment dirais-je, plus profonds, qui sont simplement de produire du sens. Parce qu'en fait, quelque part, en tant qu'être humain, on n'a pas grand-chose d'autre à faire que de produire du sens, sinon on est tout seul face au vide et à notre finitude.
Avez-vous l'idée d'une invention qui pourrait être indispensable dans le futur, Karim Misquet ?
Il y en a une qui est un peu effrayante, mais qui va exister, qui moi me travaille beaucoup en ce moment. C'est celle sur laquelle est en train de travailler, enfin, ou de faire travailler plus exactement Elon Musk, donc le fondateur ou l'un des fondateurs de Tesla. Là, c'est qu'il veut connecter directement le cerveau humain avec l'ordinateur. Et ce qui est intéressant et effrayant, c'est qu'il dit que on est obligé de faire ça, parce que si on ne fait pas ça, on ne sera pas compétitif économiquement par rapport à l'intelligence artificielle.
Le cerveau n'est pas à la hauteur.
Le cerveau n'est pas à la hauteur, et donc comme l'intelligence artificielle va exister, donc ça veut dire un monde à la Terminator, à la Matrix, potentiellement, quoi. Donc comme ça va exister, si l'être humain ne veut pas être totalement supplanté par l'intelligence artificielle qui fera tellement tout mieux que nous, eh ben il faut que lui-même se connecte à l'ordinateur, c'est la seule manière de rester sur le marché. Donc ça, ça nous fait réfléchir à notre valeur en tant qu'être humain qui, d'ici 5-10 ans, va se retrouver, on va être démonétisé, quoi. Le cauchemar, il est là et les moyens techniques pour le réaliser sont là. C'est à nous de faire que ça ne soit pas un cauchemar et que ça reste au service de l'humain. Mais si on n'en est pas conscient, on est sûr que ce sera un cauchemar.
Karim Misquet, auteur d'un roman graphique autobiographique intitulé « S'appartenir », très beau livre disponible aux éditions Viviane Ami. On est avec Joséphine Boucher, cofondatrice de Ticket for Change, incubateur d'entreprises sociales, et Alexandre Cadin, chercheur à l'ENS, féru d'utopie. Cette idée d'omniprésence du futur dont parlait à l'instant Karim Misquet, ça vous parle ? Il est plus présent aujourd'hui qu'hier dans nos conversations, dans nos vies, le futur ?
Oui, bien sûr, c'est vrai qu'on a l'impression même que la réalité est allée plus vite que nos fictions, quoi, quelque part. On se rappelle les textes de, même, qui étaient cités, là, de Philip K. Dick dans Minority Report. Il imaginait le monde en 2050. Et aujourd'hui, en 2017, on a près de 90% des technologies imaginées qui sont présentes. De la voiture autonome, de ses interfaces complexes, presque même de la détection de crimes grâce au big data. C'est assez extraordinaire de voir à quelle vitesse, effectivement, ces technologies ont pu se déployer. Après, effectivement, ce qui est évoqué ici avec ce sujet lié à l'interface du cerveau d'une machine, c'est que ça réveille un petit peu le mythe de la singularité. Vous savez, ce mythe basé sur la loi empirique de Moore, qui a observé dans les années 70 que les machines doublent leur puissance de calcul tous les 18 mois en réduisant de volume, qui a donné lieu dans la science-fiction à un concept, celui de la singularité, qui stipule qu'à un moment donné, les machines seraient donc plus intelligentes que l'homme et que tous les hommes dans tous les domaines de la vie. Ray Kurzweil a repris ce concept, en a fait un livre, La singularité approche, en 2006, où il évoque l'année même de 2045, où possiblement la seule manière de survivre pour l'homme serait effectivement de fusionner avec la machine, devenir un cyborg, pour devenir non pas simplement une machine, mais un peu plus, parce qu'en plus d'une machine, on serait humain. Récemment, il a annoncé qu'il s'était trompé sur la date, donc tout le monde était soulagé.
Mais uniquement sur la date. Hein.
Ouais, mais finalement, c'est 2029.
Aïe.
Alors, typiquement, voilà moi ma limite. Je crois pas à la singularité, c'est un mythe, parce qu'elle est fondée sur une loi qui est empirique et qui ne prend pas du tout en compte le fait que l'intelligence artificielle ne procède pas que par puissance de calcul, mais par accès aux données massives, et aussi par l'innovation sur l'algorithme. On regarde en fait dans le détail que s'il y a eu de l'innovation dans les algorithmes ces dernières années, la puissance de l'intelligence artificielle, en revanche, a été acquise grâce aux données massives et grâce à cette puissance de calcul. Donc on ne va pas arriver pour tout de suite à une forme de super intelligence humaine et encore moins consciente d'elle-même.
Elle est là l'ambition de la fondation Anima que vous allez bientôt lancer avec les Nations Unies. Ce n'est pas une fondation d'ailleurs, si
C'est un projet de laboratoire plutôt privé.
Voilà, se pencher sur l'impact positif éventuel des intelligences artificielles.
Exactement. Le projet Anima, l'objectif était de définir un petit peu en contrepoint de ce transhumanisme qui veut donner une conscience aux machines. Là, l'idée, c'était de leur donner une âme. Et comment est-ce qu'on peut donner une âme à une machine quand on regarde que l'intelligence artificielle, que l'on construit depuis plusieurs années, dizaines d'années, on lui a en quelque sorte donné un corps, mais il lui manque une sorte de sens. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est surtout exploitée au marketing et au trading haute fréquence. En revanche, il y a de quoi développer avec ces algorithmes, ces nouvelles générations d'intelligence artificielle, des systèmes qui permettent d'impacter le monde positivement.
On parlait de la robotique d'assistance tout à l'heure, par exemple.
Exactement.
Par exemple,
la robotique d'assistance. Vous citiez aussi un travail avec les Nations Unies, début juin. Les Nations Unies vont ouvrir un premier sommet, l'intelligence artificielle pour le bien. Ça passe un peu mieux en anglais, donc
for
AI
good.
For good. Sur l'idée de dire, voilà, nous avons 17 objectifs pour la transformation du monde au XXIe siècle, pour un développement durable allant de la faim dans le monde à l'accès à l'éducation, à l'eau. Comment est-ce que l'intelligence artificielle, quelque part, peut accompagner les différentes agences des Nations Unies pour assister leurs recherches, leurs travaux, et leur permettre peut-être d'accélérer finalement la résolution des problèmes identifiés.
Un exemple de problème identifié qu'on pourrait résoudre grâce à l'intelligence artificielle?
Exactement. Alors, il y a notamment un grand travail qui est réalisé sur l'accès à la nourriture, le problème de la nutrition, de la malnutrition aussi dans le monde. Aujourd'hui, il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui sont déployés pour capter en temps réel, avec un certain nombre de capteurs, finalement, où sont les ressources en parallèle des besoins les plus immédiats. L'idée étant de pouvoir avoir, en quelque sorte, une sorte de répartition, pas encore automatisée, bien sûr, mais d'un regard, d'une prise de hauteur un petit peu en temps réel, sur Terre, finalement, sur les capacités en œuvre pour mieux répartir les ressources en fonction de nos besoins nutritionnels.
Un dernier mot rapidement sur les données personnelles. C'est vraiment le grand enjeu du futur et notamment l'exploitation des données personnelles par les intelligences artificielles. Comment imaginer qu'elles ne seront pas mal utilisées, Alexandre Cadin?
Alors, c'est vrai que sur ces sujets, il est bon dès maintenant d'envisager finalement des scénarios peut-être un peu dystopiques pour essayer d'anticiper.
Imaginez le pire pour l'éviter, quoi.
Exactement, ouais. C'est d'ailleurs une phrase du professeur Xavier dans X-Men. Éteindre la guerre avant qu'elle n'émerge. Alors, en anglais, c'est un peu mieux encore.
Ça. Oh, bah, décidément.
End the war before it begins. Et je pense que c'est un enjeu effectivement essentiel. On a d'ailleurs en France des travaux très intéressants qui sont développés notamment par Snips, l'entreprise de Randy Indie, qui travaille dans l'intelligence artificielle à s'assurer que nos données personnelles restent en notre possession, malgré justement la facilité d'un certain nombre de plateformes orientées vers l'utilisateur final à capturer en quelque sorte notre propre vie.
C'est compliqué de dire qu'on va être vigilant alors qu'on donne déjà tous aujourd'hui volontairement toutes nos données à Facebook. Ouais, volontairement, encore une fois.
Bien sûr, je pense qu'il y a une forme de schizophrénie un peu presque à vouloir d'un côté que tout aille plus vite, que tout soit sans friction, et de l'autre à refuser finalement un petit peu le gage de cette gratuité presque parfois qui est nos informations personnelles.
Bon, l'utopie, c'est un mot que vous allez continuer à employer l'un et l'autre dans les décennies à venir. Joséphine Boucher.
J'espère. J'ai une phrase trop bien de.
Une phrase trop bien, de, n'hésitez pas.
D'Emmanuel Faber, qui est cité dans le Mouktiket, qui est pile en lien avec le sujet. L'économique sans le social est une barbarie, le social sans l'économique est une utopie. Ah. Donc, l'un va pas sans l'autre, et voilà, le fait de penser que l'un pourrait aller sans l'autre, pour nous, en tout cas, c'est pas faisable, et donc il faut réussir à concilier les deux. Concrètement.
Ce que vous appelez le MOOC Ticket, c'est donc le cours en ligne destiné aux entrepreneurs du changement que vous accompagnez avec Ticket for Change.
Exactement.
Alexandre Cadin.
Sur l'utopie, moi, je suis quand même partagé, finalement. Ah. Parce que je me rends compte en parlant qu'il y a des domaines, en fait, qui ne devraient pas relever de l'utopie. Changer le monde pour le bien, certes, quand il s'agit de construire de nouveaux idéaux, mais quand on parle effectivement de vouloir impacter le monde sur des problèmes de société massifs, notamment. On parlait tout à l'heure d'accès, finalement, un accès égal et homogène à la nutrition. Ça ne devrait pas, en fait, participer d'une utopie. C'est presque normal.
Ou alors, c'est le sens du mot qui devrait changer.
Peut-être, exactement, ouais.
Allez, place à la dernière étape de l'émission, le bocal de demain la veille. On met sous cloche tous les trucs qui vont disparaître, soit parce qu'on se désole et qu'on veut les sauver de l'oubli, soit parce qu'on est ravi de leur disparition prochaine. Joséphine Boucher, que déposez-vous dans le bocal ?
Moi, je déposais Ticket for Change dans le bocal.
Ah tiens.
Parce que je me dis qu'on aura réussi si un jour on n'a plus besoin d'exister, en fait. Si la question de comment est-ce qu'on fait que notre travail soit à la fois un moyen de se rendre utile et de valoriser ses talents et ses passions, ce soit plus, en fait, une question et que ce soit presque naturel ou spontané d'y penser tout au long de, je sais pas, notre éducation. Donc, voilà.
Que ceux qui veulent changer le monde le fassent vraiment sans votre aide.
Exactement. Que ce soit normal, en fait, qu'on n'ait plus à inciter là-dessus.
Alexandre Cadin, vous êtes venu avec l'objet, je crois.
Exactement, je suis venu avec une montre molle, presque dali-esque, dans l'idée du souvenir peut-être futur d'un monde où on n'avait pas le temps. Un monde très pressé, où on cherchait sans cesse à accélérer le futur, à réaliser 2050 en 2017, quand au contraire, je pense qu'on a les moyens aujourd'hui ensemble de réfléchir au-delà de cette obsession du temps, à une obsession peut-être plus proche de l'espace, à la construction d'utopie nouvelle.
Une montre molle et l'association Ticket for Change, les deux rejoignent notre bocal. Merci beaucoup à tous les deux, Joséphine Boucher. On trouve toutes les infos concernant Ticket for Change sur la page Demain la veille, franceinter.fr. Alexandre Cadin, rendez-vous donc le 7 juin, c'est bien ça, pour le lancement de votre projet Anima en liaison avec l'ONU. Réflexion sur l'impact positif de l'intelligence artificielle et on va suivre ça de très près. Exploration du futur à suivre la semaine prochaine et je donne rendez-vous à nos auditeurs malouins ainsi qu'à ceux qui seront de passage à Saint-Malo. Émission en direct et en public du festival Étonnant Voyageurs. On parlera d'un très beau bateau qui s'appelle Energy Observer, le premier navire à hydrogène. Et ce sera l'occasion, bien sûr, de parler d'énergie du futur. Venez nombreux au Palais du Grand Large à Saint-Malo, dimanche prochain, le 4 juin, à 17h. Très belle soirée à tous sur France Inter.